les marques, salut les smarts, bienvenue dans Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Et bien, on analyse les shows, notamment de la WWE, donc Raw, SmackDown, ça en est plutôt régulier, tentant à faire un peu d'NXT et même un peu d'AEW. Bon, c'est pas vraiment la WWE, mais vu qu'ils récupèrent tous leurs anciens catcheurs, on va considérer ça comme un sous-show de la WWE, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Et donc aujourd'hui, on est parti pour le SmackDown du 14 août, qui se passait au Performance Center la veille du 15 août. Je ne sais pas si c'est férié aux États-Unis, mais en tout cas chez nous, c'était férié. Et donc pour le commenter, vous allez avoir droit à une surprise, vu que c'est seulement Papy qui est là, vu que tous mes autres collègues n'ont malheureusement pas survécu à cet épisode caniculaire. Donc c'est malheureux, mais c'est comme ça. Donc je voudrais avoir une petite pensée pour eux aujourd'hui, de ce moment difficile, de cette solitude que je ressens. Voilà, bon, c'est fini, on s'en fout maintenant. On va passer aux choses concrètes, on va passer au show bleu, le show bleu qui démarrait avec un petit récap de Retribution. Qu'est-ce qu'ils ont fait la semaine dernière, les fous furieux, qui balancent des parpaings dans des vitres brisées, qui des cordes avec une tronçonneuse et qui tapent sur du plexi avec leurs mains. Et voilà, donc c'est des foufous, ils font peur. Et donc du coup, SmackDown flippe vraiment sa race et c'est blindé de personnes de sécurité pour protéger un peu le Performance Center de l'attaque de ces grands vilains. Et donc, dans le ring, on démarre avec Biggie qui pas peur, lui qui est plutôt courageux, qui fait une petite promo, enregistrer sa patoche. Et qui vient de rejoindre par John Morrison, qui pareil nous fait une petite promo enregistrée. Et puis les deux, ils se préparent à se confronter, ils se toisent. Et les lumières s'éteignent. Qu'est-ce qui se passe? Les manques de rétribution sont là. Ils attaquent le ring. Et première surprise, c'est qu'ils ne sont plus, cinq. Ils sont une armée maintenant. Il y en a deux partout. Et du coup, on n'a plus forcément les cinq nains. On a des gens plus grands. Il y a notamment une personne qui va faire un spear sur Biggie de mémoire. Et donc voilà, donc c'est le massacre. Morrison et Biggie n'ont même pas le temps de démarrer le match, il est déjà terminé vu qu'il y a eu un envahissement de la part de Retribution. Il y a Miz qui arrive, forcément le clan est déjà reparti. Et puis on part en pause publicitaire, donc au retour de la pause publicitaire, tout le roster de SmackDown est réuni dans les vestiaires. Il y a le Miz qui va s'excuser auprès de Morrison en disant désolé, mon pote, je t'aurais bien défendu, mais j'étais au téléphone avec Maryse, tu sais, c'est pas facile, hein, on a plein de choses à se dire. Sinon, tu doutes bien que je t'aurais aidé, hein. On se doute bien aussi que le Miz, dès qu'il peut échapper une baston, il y va. Hein. Biggie, lui, est plus en mode de vestiaire en fait. Là, il va prendre la parole pour tout le monde en disant qu'on va pas se laisser faire, que c'est le show bleu, que c'est eux les patrons, d'ailleurs, c'est le patron un peu par défaut, vu qu'il n'y a pas le champion universel, il n'y a pas le champion intercontinental, il y a juste Biggie, les Lucha Dragons, les Lucha House Party plutôt, excusez-moi, petit lapsus. Nous avons Siki, nous avons Shinsuke Nakamura et Cesaro, mais qui sont dans un coin, qui s'en foutent un peu. On a Shorty G là, qui fait un peu le limite le face, qui ouais, vas-y Biggie, on est avec toi et tout. Enfin, bref, c'est vraiment la petite équipe, le petit roster de SmackDown. Aucune fille d'ailleurs à noter. Là-dessus, il y a Corbin qui arrive et qui se fout un peu de la tronche de Biggie. Pareil, il y a Sheamus qui se pointe derrière et qui, une nouvelle fois, se fout de la tronche de Biggie. Puis il nous fait un peu comme à l'époque de Nexus de mémoire. Il faisait ça aussi. Il faisait le mec un peu rage, un peu il s'attaque à vous parce que vous êtes un peu des tocards. Mais vous allez voir que quand moi je serai dans le ring, ils vont même pas se pointer, nos amis Retribution. Et donc voilà, ça se finit un peu comme ça sur ces petites discussions de vestiaire. Et puis on reprend ensuite dans le ring avec. Avec Sacha et Bayley qui vont nous se la raconter un petit peu, qui vont nous introduire un peu la bataille royale, donc pour désigner la challenger à Bayley pour SummerSlam. Et donc du coup, ils se disent on a déjà montré qu'on était un peu les meilleures catcheuses, on a montré aussi qu'on était un peu les meilleures commentatrices. Et donc maintenant, on va montrer qu'on est les meilleurs ring announcers. Donc elles prennent toutes des petites fiches. Et puis, ils annoncent les personnes qui vont rentrer dans le match. Donc, elles annoncent les filles de Raw, donc Billie Kay, Peyton Rose et Iconic. Elles vont annoncer aussi deux petites jeunes de NXT, là, donc Tegan Nox, Chelsea Blackheart. Elles annoncent aussi de mémoire Lacey Evans, en disant ah oui, elle est là aussi. Hein. Et puis d'un coup, elle se bloque. Elle se dit merde, il y a un souci. Elles relisent les fiches. Elles disent au backstage, vous avez un peu fait une bêtise, vous avez fait des mauvaises fiches. Et voilà, elles sont interloquées et soudain, une musique se déclenche. C'est Asuka qui débarque. Et oui, Asuka qui va participer à la Battle Royale elle aussi, alors qu'elle est déjà challengeuse au titre d'Euro de Sasha. Et donc voilà, donc elle arrive et puis elle se met directement sur la gueule avec Banks et Bayley. Donc voilà, elle tape dessus, puis bah, on part en pause publicitaire de nouveau. Et on revient, et là, le ring est rempli des participantes. Donc on a toutes celles que j'ai citées tout à l'heure. On a aussi Shayna Baszler, on a aussi Naomi, Liv Morgan, Ruby Riot, Bianca Belair, Nikki Cross, Dana Brooke et Tamina qui est revenue. Donc bon, c'est pas de la grande battle royale, là. Ça a duré 9 minutes quand même. Mais bon, je vous le dire tout de suite, ce qui m'a perturbé, c'est qu'on a eu beaucoup d'éliminations qui ont eu lieu par des personnes extérieures au ring. Je m'explique. Donc d'abord, il y a Peyton Royce et Billie Kay qui éliminent notre ami Ruby Riot parce que cette dernière essaie de sauver sa copine Liv Morgan. Ensuite, elles se font ensuite éliminer par Liv Morgan. Ensuite, elles font faire tomber, je sais plus qui, je commence à m'embrouiller en fait. Je crois qu'elles font tomber Liv Morgan depuis l'extérieur. Ensuite, il va avoir aussi notre ami Dana Brooke qui est à l'extérieur, puis qui va rattraper Tegan Nox aussi, qui va la faire tomber. Enfin, il y a beaucoup de trucs comme ça en fait, où les personnes éliminées rééliminent d'autres gens. Alors, Dana Brooke n'était pas éliminée. Dana Brooke nous a fait le classique, je me mets à l'extérieur du ring et puis je remonte. Alors, au lieu de remonter au dernier moment, non, elle remonte quand il reste deux personnes dans le ring. Mais du coup, il restait notre ami Asuka et notre ami Shayna Baszler. Et bien, du coup, la pauvre Dana Brooke, elle se fait jarter. Donc, comme je disais, il restait Asuka, Shayna Baszler. Asuka est projetée hors du ring, mais raterrée sur Bayley et Sasha. Donc, elle est sauvée comme ça. C'est un petit show, une petite cascade à la Kofi. Elle remonte dans le ring. Elle se prend la soumission de Shayna Baszler, mais arrive à la passer par-dessus les cordes et la jeter par-dessus. Et donc, aux surprises, Asuka est challengeuse à la fois pour le titre de Raw de Sasha Banks, mais aussi pour le titre de SmackDown de Bayley. Donc ça va être tout match Asuka, pour être tout belle Asuka. Elle va avoir un programme sacrément chargé pour SummerSlam. Je le dis tout de suite, c'est ce qui me semble qu'elles l'ont dit, Sasha et Bayley. Elles auront un match tag team, mais pas à SummerSlam. Elles auront un payback qui se passe une semaine après, je crois. Donc voilà, donc au moins, c'est sûr, on n'aura pas trop de matchs non plus avec les filles. Avec ces filles-là, en tout cas. Et donc voilà, donc grosse surprise, Asuka qui est qualifiée. Alors, beaucoup de gens s'attendaient à des gens peut-être de NXT ou peut-être un retour de Naomi qui a été mis en valeur un peu avant, mais non, c'est vraiment le petit haut de la carte féminin qui est mis en avant à SummerSlam, vu qu'en fait, sur deux ceintures, on n'aura que trois catcheuses, et c'était déjà trois catcheuses qu'on voyait au show d'avant, et au show d'avant, et au show d'avant, au pay-per-view, je veux dire. Donc, effectivement, il y a un tout petit main eventer chez les filles, ces trois-là, puis on peut rajouter peut-être Charlotte. Ensuite, il y a quelques demi-tardeuses avec, on va dire, Shayna Baszler, peut-être un peu aussi, comment elle s'appelle déjà, Bianca Belair, ou Nikki Cross qui était pas mal montée récemment. Tout le reste, c'est la low-card, là. Bah, les Peyton Royce, les Lacey Evans, les Naomi, les Liv Morgan. Pareil pour les filles d'NXT, là, les Tegan Nox, Chelsea Blackheart. C'est du fin fond de la carte, ça c'est même à NXT, c'est pas du main event. Alors qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse autre chose dans le main roster? Ça dégage, hop, retournez dans votre show tout pourri. On continue avec le show bleu. Donc le show bleu, bah, on est parti sur les filles, on continue avec les filles, puisque Mandy Rose, sa petite coupe courte là, va nous faire une petite promo pour nous dire que blablabla, je suis pas qu'une fille jolie, vous savez, j'ai toujours dû me battre et blablabla parce que je suis blonde et blablabla et blablabla et ça et ça. Et bref, je vais me battre à SummerSlam contre toi, Sonya, dans un R vs R match. Surprise! Qui s'y attendait à ce qu'elle se coupe les cheveux, les filles? Personne, j'imagine, vu que ça faisait 2 semaines qu'on parlait des cheveux de Mandy. Bon, bah voilà, je vais pas aller plus longtemps. C'était ce qui est attendu. Alors, je suis peut-être un peu surpris que ce soit SummerSlam, mais bon, c'est peut-être pour pouvoir faire une petite pause hors catch dans ce show de l'été. Donc, voilà, rien de plus. On repasse un peu dans les coulisses. Bon, il y a plein de gens qui se croisent. Il y a notamment Nikki qui va croiser Alexa Bliss et s'excuser un peu de l'avoir repoussée il y a quelques semaines. Mais Bliss, elle est un petit peu froide, en fait. Elle dit qu'elle a besoin de parler et notamment d'avoir des réponses auprès de Braun par rapport à ce qu'il a dit la semaine dernière. On se souvient que Strowman avait notamment dit qu'il s'en foutait complètement d'Alexa Bliss. Et donc, bah, elle dit qu'elle va obtenir des réponses plus tard dans la soirée. On repart un peu dans le ring avec un petit match qui a finalement été qui est la suite de ce qui s'est passé la semaine dernière. Souvenez-vous, la semaine dernière, Shorty G avait pourri un match de Sheamus en essayant d'attaquer Matt Riddle. Et donc, bah, cette semaine, bah, Sheamus a son match revanche donc contre Shorty G. Bon, ça va être vite torché, hein. Ça dure 4 minutes. White Nose, Brock Kick, c'est terminé. Sheamus s'impose. Voilà, c'était juste c'est un petit match de transition. Malheureusement, on en aura quelques-uns dans cette soirée. C'était pas une grande soirée en termes de catch. Derrière, on a droit à un autre segment, un segment un peu plus, on va dire, d'habillage, où AJ Styles arrive avec bah, une personne en fait qui l'a recruté dans les bureaux. C'est un espèce de mec avec un costard et des lunettes de mémoire qui a des cheveux bien peignés et qui est champion des statistiques en fait. Parce que, bah, en fait, voilà, AJ Styles, il avoue, finalement, il a un petit peu nerd sur les bords. Il aime bien regarder les stats pour savoir un peu au baseball qui est le meilleur, au foot américain qui est le meilleur. Et puis bah, au catch, il se dit c'est pareil finalement pour j'affronte un peu des nullos pour ma ceinture intercontinentale. Et bah, ça serait bien de trouver le vrai challenger qui mérite selon les stats. Donc voilà, donc il arrive avec son copain statisticien dans le ring et un grand tableau masqué. Donc son copain statisticien, je vais vous le dire tout de suite, c'est a priori un certain Monsieur Park. Et qui a travaillé dans les abysses de la TNA il y a quelques années, voilà, qui maintenant travaille dans les coulisses de la WWE. Bref, à deux, ils vont dévoiler qui est le numéro un au stat en termes de catch de SmackDown. Et surprise, surprise, là, franchement, je m'y attendais pas parce que, bon, voilà, AJ Styles est plutôt réputé pour sa modestie. Et ben, c'est AJ Styles lui-même qui est premier aux statistiques. Voilà, donc bon, bah, il va pas s'affronter lui-même, donc on va regarder qui le suit dans le classement pour pouvoir désigner le number one contender à la ceinture intercontinentale. Et donc là, il dévoile le reste du tableau, et surprise, personne qui va affronter AJ Styles, c'est personne. Voilà, le tableau est blanc, il a juste AJ Styles en haut et rien en dessous. Donc voilà, c'est simple, en fait, les statistiques ont prouvé que personne n'était au niveau d'AJ Styles. Voilà, donc là-dessus, bah, moi enfin, je pense qu'on est tous un peu d'accord avec ce qu'il dit, hein, parce qu'effectivement, AJ Styles, il a quand même battu des mecs super hauts, genre des Drew Gulak, des Grandes Metallic, c'est du niveau champion du monde, ça, hein. Enfin, ou pas. Bref, donc Jeff Hardy, là-dessus, sur ses entrefaits, arrive sur le ring, et puis voilà, il va nous faire un petit segment micro, donc un petit segment micro à la mode TNA, du coup, vu qu'on a trois ex qui se sont croisés. Qui sont maintenant dans le ring, et puis Jeff Hardy qui respecte AJ Styles. AJ Styles dit que c'est qui respecte Jeff Hardy, et puis bah, il le respecte tellement que bah, non, il ne va pas lui donner de match pour le titre. Parce qu'il ne mérite pas d'être sur le tableau. Et ben là-dessus, Jeff Hardy, il ne se laisse pas compter comme ça, bah, il fait un twist of fate, et puis bah, il prend le feutre de Monsieur Park, et puis il écrit son nom sur le tableau. Voilà, et comme ça, il n'est pas chié. Il écrit son nom sur le tableau. Donc, est-ce qu'il va être number one contender? Bah, on verra, hein, on verra ce que ça donne. Est-ce que oui, non, suspense. Donc, on repart dans les coulisses, du coup. On repart dans les coulisses où Cesaro et Shinsuke sont en train de se la raconter un peu. T'as eu ça? Et les Luchadors, oh là, qu'est-ce que
comment qu'ils sont nuls, en plus ils sont pas très grands, on va les massacrer. Et pendant qu'ils parlent, il y a deux petits luchadors qui viennent derrière et qui vont avec le titre par équipe. Oh là là, que des blagueurs! Sérieusement, il y a AJ Styles aussi qui se bat dans coulisses, puis qui toujours avec son copain Park, puis qui dit que Jeff Hardy c'est un salopard et tout, qui mérite rien, et qui mérite surtout pas d'être le mec qui affrontera AJ Styles pour la ceinture. Et donc du coup, il n'existe pas, il n'existe même pas dans ses analyses. Et puis du coup, il prend un chiffon puis il va l'effacer du tableau pour le dégager. Et puis bah en fait non il n'y arrive pas parce que l'ami Park qui m'a l'air vraiment fut-fut, il avait ramené un feutre indélébile pour écrire sur le tableau blanc. Et bref, et ben voilà, c'est de la grosse rigolade, on se marre bien, on dit oh là là, qu'est-ce qu'ils sont bêtes. Et puis voilà, c'est tout. Donc je sais plus si c'est maintenant ou c'est un peu plus tard, mais en gros, c'est le championnat intercontinental, donc vous vous en doutez, il sera forcément à l'affiche de SmackDown juste avant SummerSlam. Et oui, pour la troisième fois consécutive, le titre intercontinental va être défendu sur un SmackDown lavé d'un pay-per-view. Ne me demandez pas pourquoi. A priori, c'est ancré maintenant dans le marbre. Non, ça se dit pas comme ça d'ailleurs. Gravé dans le marbre plutôt. Ouais, parce qu'ancré de l'encre sur du marbre. Bref, on s'en fout. On a du catch qui redémarre. Un grand match de catch, encore une fois, puisque l'un des deux voleurs grande métallique va affronter l'un des deux volés, Shinsuke Nakamura. Et oui, voilà, on m'a volé ma ceinture, donc du coup, on saute sur la tronche. Grand match une nouvelle fois, vu que ça dure encore une fois 4 minutes, qui va pas se passer grand-chose, puisque globalement, Shinsuke Nakamura domine lentement, il est pas... Enfin, moi, vous connaissez mon amour pour le japonais, hein, et je le trouve toujours mollasson. Même dans ses replacements entre chaque prise et en trottinant, quoi, c'est pas vif, c'est pas vif. Il veut sortir un Kinshasa à grande métallique, mais soudain, la musique des Lock House Party redémarre. On se demande pourquoi. Le public se demande aussi pourquoi. On attend quelques secondes, et qui apparaît? Notre ami Kalisto qui fait son retour. Ça y est, les Lock House Party sont de nouveau complets. À 3. Du coup, Cesaro, bah, comme un taureau, fonce dessus. Et donc, il va. Enfin, je sais plus exactement ce qui se passe, mais en gros, Kalisto va attraper Cesaro par le cou et aidé par notre ami Lince Dorado, qui va le faire tourner. Il va faire un tornado DDT et le faire, donc, du coup, mettre Cesaro au KO. Là-dessus, forcément, Shinsuke Nakamura voit son copain. Mettre mise à terre, et donc du coup, bah, forcément, il est distrait. Et quand on est distrait, on se prend un coup de coude, et du coup, Grand Metalik, bah, Nakamura part tomber. Voilà, même pas un roll-up, un vrai tombé. Nakamura, la star de la low-card, voilà, il ferait mieux de se remettre au surf, puisqu'a priori, le catch, c'est pas son truc. Et en tout cas, il prend un joli coup dans la tronche. Et donc, a priori, même si ça peut être annoncé, je pense qu'on va se diriger vers un Lucha House Party versus Cesaro Nakamura pour le titre tag team. Vu que maintenant, on a une victoire de chaque côté. Donc, bah voilà. Alors, est-ce que notre ami, ça sera toujours la paire métallique Dorado, ou est-ce que du coup, Kalisto va aussi faire son retour dans le ring? Est-ce que Sami Zayn va revenir? Parce que mine de rien, c'était un groupe de trois aussi, le groupe avec Nakamura et Cesaro, et maintenant qu'ils sont à deux contre trois, est-ce que c'est pas l'occasion de récupérer le troisième ou d'en recruter un autre? Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les communiquer. Mais en tout cas, voilà, donc Grand Metalik qui avait affronté Jay Styles la semaine dernière, cette semaine, et ben il bat Nakamura. Donc voilà. Je ne sais pas quoi penser de plus de ça, donc je vais passer à la suite. La suite, ben, c'est de nouveau les coulisses. Comme vous vous en doutez, on n'a passé pas le temps en coulisses ce soir. Cette fois-ci, c'est Matt Riddle qui nous fait une promo en appelant Kayla Braxton bro, alors que bon, manifestement, c'est plus une 6 qu'un bro, mais bon, il sait dire que ça, bro, bro, j'ai pas de chaussures, bro, on s'en fout, Matt Riddle, on s'en fout ce que tu racontes. Et donc, voilà, t'as Shorty G qui arrive et puis qui s'excuse auprès de Matt Riddle en disant, bah voilà, il confirme un peu ce qu'on a vu en début d'épisode. Ah, désolé, il y avait la rançon, je me suis un peu laissé emporter. Et puis voilà, quoi. Pouf, pouf, c'est fini, on oublie. Et puis, bah, comme Madrigal, il est pas fin, il fait ouais, d'accord, bro, top là. Bref, gros débile. Bah, gros débile, il se fait surprendre par Corbin qui arrive par derrière. Et Corbin, il attaque Matt Riddle, il le met par terre, et puis il fait « Merci Chad, c'est toi mon pote ». Voilà, donc bah voilà, Matt Riddle toujours un peu débile, Corbin toujours un peu sournois, sorti G toujours un peu petit. Mais bon, ça continue lentement, bon, c'est de la low card. Ouais, je sais pas, ça fera peut-être un pré-show à SummerSlam, qui sait. Mais donc du coup, tant qu'on est en coulisses, et ben, là, on va avoir le moment qui est annoncé un peu plus tôt, le Moment of Bliss. Alors, c'est pas un Moment of Bliss, l'émission, c'est Moment of Bliss, une interview d'Alexa Bliss qui, du coup, va expliquer un peu ce qu'elle ressent par rapport à ce qui s'est passé ces dernières semaines. Le petit passage avec le Finn, le passage avec Braun Strowman. Donc, elle explique que Strowman... elle a appris à le connaître un peu avec le mixed tag team match, que bah il avait un peu fait peur au début, puis qu'elle avait appris à l'apprécier, une petite amitié s'était créée, et puis bon voilà, il est pas que brutal, il est aussi drôle, il a finalement un bon fond, et puis donc elle a relancé un peu sur sa relation avec Strowman, et puis elle dit, bah ouais, c'est une amitié, ça sera peut-être être plus. Vous voyez, des fois, on est entre amis, un peu d'alcool, on ne sait pas ce qui se passe, et une main malheureuse, et puis voilà, on ne sait jamais, et puis puis c'est fini, quoi, parce que, enfin, elle ne le dit pas, mais on sent que, bizarrement, ses yeux s'allument plus quand elle parle du Finn, parce que le Finn, il l'a rejoint dans le ring, et puis ça lui a fait un peu peur, et puis. Et puis voilà, ça et puis Strowman en plus maintenant qui dit qu'on s'en fout d'Alexa Bliss, et ça a l'air de la troubler. Elle est troublée, Alexa. Donc voilà, on ne sait pas ce que ça réserve. Bon, de toute façon, on nous a annoncé une confrontation fine Strowman plus tard dans le show, donc on présume qu'elle aura ses réponses à ce moment-là. Bon, toujours en coulisses, Sonya Deville dit gna 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 les cheveux, gna 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 d'accord, gna gna gna, on se verra à SummerSlam, gna gna gna, on s'en fout. Voilà. Non, mais je veux pas non plus continuer là-dessus, on s'en fout non, de Sonya et de Mandy Rose, non, non, si, oui. Est-ce que quelqu'un ça intéresse? Voilà. Si quelqu'un le dit maintenant, je suis prêt à dire des choses sur ce segment. Attention, allez-y. Une fois, deux fois, personne, on s'en fout. Il n'y avait personne, ça n'intéresse personne. Donc du coup, on continue avec finalement ce qui sera le dernier match de la soirée, le gros match de la soirée. C'était le match qu'on nous avait présenté au début et qui avait été coupé. Et puis Biggie avait dit non, mais je le ferai quand même parce que je suis en radio. Et il a raison. Il va vraiment faire son match avec John Morrison. Et là, tu as tout le monde qui vient en fait près du ring, tout le roster en fait, pour protéger ce match, pour s'assurer qu'il se déroule jusqu'au bout. Donc le match est plutôt bon, c'est la confrontation classique entre les deux. Finalement, le fait qu'il y ait tout le monde autour du ring, on sort un peu de la tension qu'on a par rapport au match, notamment parce que on voit sur notre télé, et pas sur les écrans géants pour une fois, parce que d'habitude ce qui se passe sur la télé, ça passe sur les écrans géants, mais non, là cette fois-ci ça passe que sur notre télé, et on voit Retribution qui attaque les gens en coulisses. Les deux, trois personnes qui restent, vu que tout le roster est à côté du ring, donc ils vont attaquer, je sais pas moi, un espèce officiel, ils vont attaquer aussi deux arbitres, je crois qu'il y a un autre officiel qui est caché dans les chiottes, comme il est caché dans les chiottes, on va mettre une chaise pour le bloquer, ça y est, c'est redevenu Retribution les blagueurs. Bon. Ce n'est pas que blagueur parce que les arbitres ils prennent cher. Il y en a un qui passe à travers une table de mémoire. Enfin, d'ailleurs, le Retribution se casse un peu la gueule en le faisant passer à travers la table. Mais bon, en tout cas, c'est plus violent. Ils font aussi un nouveau tag contre le mur avec le WWE barré. Cette fois-ci, tag réussi du premier coup. Donc, ils ont appris de leurs erreurs, nos amis Retribution. Et en fait, comme c'est pas projeté sur l'écran, et ben personne n'intervient parce que le roster il regarde le match bien gentiment. T'as bien Michael Cole qui crie, mais manifestement pas fort, pas assez fort pour que les gens l'entendent en disant mais arrête d'être là, c'est entrer en coulisses qu'il faut aller, c'est pas ringside, c'est vite, vite, en coulisses, vite. Enfin, c'est tellement vite, et ben que, enfin, il va même pas se lever pour le dire aux autres. Hein. Il reste toujours assis à son poste pour conscience professionnelle jusqu'au bout. Et du coup, il faut attendre que un arbitre arrive et dise aux gens mais allez vous battre et tout, allez vous battre en coulisses, bande de débiles. Et donc voilà, ils vont en coulisses, excusez-moi. Ils vont en coulisses, et puis bien sûr, ils arrivent trop tard. Hein, il y a des dégâts partout. Heureusement, ils vont sauver le mec qui était coincé dans les chiottes. Hein, imaginons. Je ne sais pas ce qu'il pouvait avoir comme drame, d'ailleurs, vu qu'il était juste coincé dans des chiottes. Ils ne lui ont rien fait, mais bon, c'est pas grave. Hein, ils sont là. Et puis, pas pendant ce temps-là, en fait, Biggie rattrape Morrison, parce que mine de rien, il y avait quand même un match qui se déroulait hein, pendant tout ce que je raconte. Et il fait sa fameuse prise de finition, là où il coince le genou derrière sa nuque, qui plie très fort. Et donc Morrison tape à nouveau et puis voilà quoi, victoire de Big E, nouvelle qui est à la fois qui a battu Morrison après avoir battu le Miz, Big E qui est content, il fête un peu sa victoire, et puis bah quand t'es un peu trop content, SmackDown, qu'est-ce qui arrive, bah t'as un bro kick dans la gueule, voilà, t'as Sheamus qui réapparaît, qui manifestement était pas très content que Big E se soit présenté comme le leader de vestiaire en début de show. Et donc, il en fout un beau bro kick dans la gueule de Big E. Et là, les lumières s'éteignent. C'est un nouveau Retribution qui arrive. On voit l'œil inquiet de Sheamus parce qu'il a beau se le raconter. Et mine de rien, dès que ça intervient, il n'est pas très fier non plus. Et ben non, c'est Braun Strowman qui intervient. Braun Strowman et sa locomotive. On devrait même l'appeler plutôt Chauve Strowman vu qu'il s'est rasé le crâne. Donc, il va aller dans le ring pour faire sa petite promo où il va dire que bah, maintenant c'est bon, je suis survécu au marais, je suis un tueur, mais voilà, je vais vous faire mal, je suis méchant, ou moi aussi maintenant, je vais détruire le Fiend. Mais c'est pas le Fiend qui intervient, malgré ce qu'il nous avait annoncé avant le show, c'est, vous l'avez deviné, c'est Alexa Bliss qui intervient. Et Alexa Bliss qui demande des comptes à Strowman. Et Strowman, bizarrement, il ne la regarde pas, en fait, Strowman. Strowman, il reste fixé sur la caméra, tandis que Alexa Bliss est à côté de lui en le regardant, en lui demandant des comptes. Et ben, il lui dit des trucs bizarres, Strowman. Il déclame une espèce de promo toute chelou en disant que, bah ouais, non, mais c'est, ouais, il s'en fout d'Alexa Bliss. Et puis, de toute façon, Alexa Bliss, vu que tu as touché le Fiend, eh ben maintenant tu as été changé, tu n'es plus pur. C'est un peu dérangeant comme promo d'ailleurs. C'est pas très face comme promo. D'accord, c'est tellement pas face que bah, Alexa Bliss, eh ben, elle en fout une bonne gifle à Strowman, puis une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième. Enfin bref, elle l'enchaîne bien. Et Strowman, bah. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que ça va le remettre dans lui faire revenir à ses esprits? Eh ben non, Strowman, le gentil face, le top face de SmackDown, qu'est-ce qu'il fait? Il attrape Alexa Bliss, il menace de la balancer aux quatre coins du ring, et au moment où il se décide enfin où est-ce qu'il va l'acheter, eh ben hop, on l'a fait à la Raw, eh ben on ne peut pas montrer qu'une femme se fasse frapper par Strowman. On voit Alexa Bliss partir dans les airs, les lumières s'éteignent, les lumières se rallument. Et là, Bliss est par terre. Voilà. Qu'est-ce que dire? Et quand les lumières se rallument, Bliss n'est pas seul en fait à terre. Et seul à terre, pas à terre. Bref, Bliss n'est pas seul à terre. Bref, je vais y arriver. Bliss n'est pas seul. Le Fiend l'a rejoint dans le ring. Et le Fiend est là, mais Strowman n'est plus là. Et Strowman se marre avec un écran géant. C'est Docteur d'Enfer, notre ami Strowman. Et donc, il rit. Et le Fiend regarde l'écran. Il regarde l'écran interdit un peu, en passant un peu la langue. Mais en même temps, dans une position devant Bliss. Moi, ça m'a... Vous me direz ce que vous en pensez. Je me demande si on n'avait pas assisté à une espèce de double turn avec le Finn, un peu la Belle et la Bête, qui viendrait défendre Alexa Bliss. Parce que ça, c'était vraiment ça. C'est-à-dire qu'en fait, il a apparu pile au moment où Strowman a attaqué Bliss. Et quand Strowman s'est mis à rire à l'écran, il s'est foutu un peu en opposition, l'ami Finn. Et donc, comme s'il protégeait finalement l'ami Alexa Bliss. Donc voilà, le show se termine là-dessus. Sur cette finalement ce retournement un peu de position. Qu'est-ce que j'ai pu oublier dans le show? J'ai oublié de vous dire qu'à un moment, notre ami Malcolm Cole a annoncé que le prochain SmackDown se déroulerait dans un nouvel environnement, avec une nouvelle expérience publique. Donc, les rumeurs qui tournent à ce niveau-là, c'est que notamment SummerSlam devait être fait dans un nouveau stade, une nouvelle localité. Donc, plus, ça serait à un moment, ça a évoqué le nord de l'Amérique, mais ça serait plutôt finalement toujours en Floride. SmackDown, du coup, qui se passe 2 jours avant, devrait être aussi fait dans cette localisation-là. On annonce aussi, du coup, des nouveautés. Alors, est-ce qu'ils vont faire un peu comme... moi, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais moi, j'ai vu ça, je crois que c'est dans certains stades de foot ou dans des stades de basket, où en fait, ils mettent des écrans où on voit le public en direct suivre le match, en fait, de chez lui. Et puis du coup, les mecs réagissent, ça fait un peu comme un vrai public. Est-ce que c'est ça qu'il va faire? En tout cas, il a annoncé de nouvelles expériences en termes de public. Donc, à suivre la semaine prochaine, en prochain numéro. Que va-t-il se passer? On ne sait pas. En tout cas, ça s'annonce particulièrement nouveau. Voilà, donc voilà pour le SmackDown. Donc, on arrive au mot de la fin. Donc, au mot de la fin... J'ai l'ami Raphaël qui m'avait laissé un peu son impression, donc je vais vous la lire. Donc globalement, il a bien aimé que Retribution maintenant il interagisse un peu avec les vrais catcheurs. Donc il a bien aimé tout le chaos, notamment de l'attaque de Retribution. Il a aussi bien aimé le Braun qui devient un peu plus qui se laisse envahir par le côté obscur et qui du coup devient plus convaincant pour lui. Et il se demande si c'est une façade. Donc, lui, il pense pas comme moi. Lui pense plutôt que c'est peut-être une façade pour protéger Alexa du monstre Finn. Et que peut-être qu'il joue la comédie, peut-être qu'Alexa aussi d'ailleurs. On va voir. Donc, il est content de voir Jeff Hardy affronter Styles. Il a bien vu aussi le comptable rigolo donc, qui accompagnait Jay Styles. Alors, ils ont fait un acronyme. En disant que c'était, je sais plus ce que ça fait, mais en gros ça fait PIS. Voilà, ils ont fait un acronyme pour dire que c'était que les mecs des statistiques, le S de statistiques, Intercontinental Statistics, quelque chose, panel ou je sais plus ce que c'est. Enfin bref, ça fait PIS. C'était rigolo. Hein. Moi, dès qu'il y a de la PIS, je me marre. Donc voilà. Donc il était un peu surpris de voir chez Gable redevenir un peu gentil et que Sheamus redevenait un peu méchant. Et puis de voir Asuka partir dans de feuds, de rivalité, effectivement. Donc, tant qu'on y est, on va donner le mot de la fin et le top flop note de Raphaël, avant d'avoir le mien. Donc le top, c'est Alexa Bliss pour ses 2 minutes par terre, 2 minutes dans les bras de Strowman qui l'a soulevé à faire un style « je vais te balancer à gauche, je vais te balancer à droite, je vais te balancer devant, je vais te balancer derrière » et qui finalement l'a balancé en face. Son flop, c'est Otis qui fait coucou pour un. Je t'avoue, je me souviens même plus quand est-ce qu'Otis est intervenu. Il est peut-être venu. Qu'est-ce qu'il a pu intervenir? Peut-être après l'intervention de Retribution. Je sais plus. Enfin bon, on fout de toute façon Otis. Hein, on est d'accord, je pense, un peuple du catcher. Et sa note, il va mettre un 3, un bon 3 de la part de Raphaël. Raphaël, je trouve qu'il a été sympa avec ce SmackDown parce que je vais mettre un petit 2,5 parce que bon, c'était un peu mieux Retribution et je suis d'accord avec Raphaël. Retribution, c'est mieux que la semaine dernière parce que t'as l'impression qu'ils font enfin quelque chose. Ils attaquent vraiment les catcheurs, ils sont plus nombreux. Enfin, là, ça commence à être envahissant. Donc, qui sont-ils? Que veulent-ils? D'où viennent-ils? On ne le sait pas encore, mais on le saura bientôt. Donc voilà. Et puis en fait, ce qui m'a un peu dérangé, par contre, c'est le manque de catch, parce qu'on se retrouve quand même avec même pas une demi-heure de catch sur un show de 2 heures. Alors, je suis d'accord, il y a les pubs, etc. Mais ça reste très léger quand même, comme catch. Mon top, mon top, je vais aussi le donner au segment final, mais je vais plus le donner dans la partie, comment dire, inversion des rôles entre, enfin, en tout cas pour moi, entre Strowman et le Fiend qui se prend un peu comme monstre protecteur. Est-ce que effectivement c'est de la comédie? Est-ce que ils sont en train de changer un peu, rabattre un peu les cartes? J'en sais rien, mais en tout cas ça m'a rendu un peu perplexe, un peu perturbé, ce truc-là. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui nous garde en réserve là-dessus? Le flop, le flop, c'est, je lui donnais la bataille royale. La bataille royale, comme je vous l'ai dit, ça m'a dérangé, parce que à la fois, il y avait trop de low-carders, il y avait des éliminations qui venait de l'extérieur. J'aime pas quand c'est comme ça. Une de temps en temps, je veux bien, mais il y en a eu deux ou trois, là, je crois, pendant le show de mémoire. Enfin, pendant le match de mémoire, c'est vraiment pas terrible. Enfin, il y a aucune élimination vraiment décisive. Enfin, c'est vraiment pas top, quoi, comme Battle Royale. C'était pauvre. En même temps, on l'avait répété semaine après semaine, les divisions féminines sont tellement détruites dans tous les shows que, bah, tu veux pas faire grand chose même en foutant toutes les filles sur un ring, quoi. Et donc voilà pour mon mot de la fin. Alors attendez, il me semble que j'ai vu à un moment notre ami Gilou nous laisser des petites questions. Alors je sais la retrouver. Les questions Rayus McDan, voilà. Les questions Gilou. Donc n'hésitez pas, hein, vous tous, à faire comme Gilou, à poser des questions. On se chargera autant que possible à y répondre. Et donc la question de Gilou, la question de Rivus McDonald, c'est, il est choqué par la victoire d'Asuka. Il pensait que ce serait une superstar d'NXT ou Naomi qui remporterait le match. Et un peu comme je vous le disais finalement au début, il voyait ça. Est-ce que vous trouvez étrange la décision de confier ces deux matchs à Asuka? Alors, mon petit Gilou, on va se parler dans les yeux. Les filles d'NXT, notamment celles qui nous ont envoyées dans le main roster, c'est des nullos. Voilà, Shotzi Blackheart, c'est Tegan Nox. Elles sont en low card d'NXT. Et donc, à ce niveau-là, je ne peux pas imaginer autre chose que se faire sortir de la Battle Royale de manière assez rapide. Et ça n'a pas été tellement le cas que ça, parce que Tegan Nox, je crois qu'elle est restée dans les quatre dernières de mémoire. Donc, mine de rien, elles sont comme une lutte d'antenne, alors que franchement, ce n'est pas joujou ce qu'elles font à NXT. Donc, je m'attendais pas. Alors, s'il y avait quelqu'un d'NXT, j'aurais plus vu notre amie néo-zélandaise, dont j'oublie le nom forcément, Rhea Ripley, éventuellement, parce que bon, elle a eu un match à WrestleMania, et puis bah, physiquement, elle est quand même impressionnante par rapport aux deux catcheuses. Donc, je pense que rien que sur son physique, ils auraient pu vendre le match. Mais sinon, les autres, non, non, sortiront pas des gens d'NXT. Et Naomi, bah, Naomi, ouais, moi aussi, j'ai peut-être Naomi. Ils avaient commencé à la pousser, mais ils l'ont vite enterré. Donc au final, ils font ce qu'ils font depuis plusieurs semaines. C'est-à-dire qu'en fait, ils restreignent les matchs entre quelques catcheuses qui font le boulot, mine de rien. Asuka, Bayley, Sacha, ça fait le taf. Je l'ai dit à Raw, je suis pas forcément emballé de les voir s'affronter après semaine après semaine après semaine. Alors le pay-per-view, je vais certainement regarder parce que voilà, c'est un pay-per-view et qu'on peut toujours imaginer qu'ils sortent quelque chose d'un peu de l'ordinaire, surtout si c'est dans un nouvel environnement. Mais oui, bah, le problème, c'est qu'ils construisent personne derrière. Donc, bah, à partir du moment où tu construis personne derrière, c'est compliqué de mettre quelqu'un d'autre à l'affiche d'un pay-per-view. Donc, voilà pour ça. Ensuite, il a suspecté Carmella comme possible membre de Retribution. Pensez-vous qu'elle sera membre de cette faction, entre guillemets, heel? Alors, déjà, je sais pas pourquoi tu dis que c'est entre guillemets heal, parce que globalement, ils tabassent des officiels, ils tabassent des arbitres, ils cassent des vitres, ils mettent des coups de bâton sur le sol. Enfin, pour moi, c'est 100% heal, cette faction. En tout cas, elle est anti-WWE. Alors, est-ce que ça serait Carmella? Pourquoi pas? Moi, je t'avouerais que j'avais une autre idée en tête que j'ai déjà évoquée la semaine dernière. C'est, je vois bien des gens de l'Evol, en fait. Qui a été racheté par la WWE de mémoire, intervenir soit ça, soit de la low card d'NXT. Parce que déjà, ils n'attaquent pas NXT et ils attaquent que les deux shows principaux. Et en plus, à moins qu'ils attaquent NXT cette semaine, hein, je vous avouerai, je ne l'ai pas regardé. Mais en plus, voilà, c'est le WWE barré qui me laisse à penser que ce n'est pas des membres de la WWE, quoi. En plus, beaucoup de petits gabarits, donc il me semblait que ça collait un peu par rapport à ce qui se passait du côté de la Evolve. On a vu, alors on n'a pas pu deviner grand-chose. Alors, si vous connaissez des gens qui, des filles qui ont des cheveux rouges, on en a vu une notamment dans le gang qui avait des cheveux rouges. Est-ce que c'est Tegan Nox qui a un peu des cheveux de cette couleur-là? Est-ce qu'il me semble qu'il y a une fille de Laevolve aussi qui a des cheveux de cette couleur-là? Suspense. Voilà. Donc moi, je vois pas Carmella, mais j'aurais plus vu soit de la low card de NXT ou du Performance Center. Soit de l'Evolve, enfin en tout cas des gens qui ne sont pas intégrés au main roster, ça me clair. Que je me trompe, hein. On verra dans les prochaines semaines et je pense qu'on aura une petite idée au niveau de SummerSlam. Jeff Hardy, bon choix comme challenger au titre intercontinental. Je m'attendais que Big E, qui a le potentiel de créer une bonne rivalité avec AJ. Oui, pense que c'est le choix de la facilité en fait, Jeff Hardy. Mine de rien, on n'est déjà plus qu'à un seul show de SummerSlam là, qui est dans 10 jours. Donc du coup, dans ces cas-là, on s'embête pas, on prend une tête d'affiche habituelle et on la fout dans les pattes de AJ Styles. D'ailleurs, je dis SummerSlam, mais ce sera même pas SummerSlam, ce sera la semaine prochaine à SmackDown le match. Donc voilà, Guy, lui, il est en début de construction. Il a le potentiel d'affronter AJ Styles. Ça, j'ai pas de souci avec ça. Je suis d'accord avec toi, Gilou. Mais par contre, est-ce que ce serait pas mieux de le garder pour, alors j'espère pour un pay-per-view, mais sinon pour Payback ou pour, enfin, ou peut-être pour un SmackDown de la semaine d'avant pay-per-view, une nouvelle fois, peut-être. En tout cas, moi, voilà, moi, je serais partisan pour laisser Big E monter lentement en puissance. Pour moi, il peut être une des top figures de SmackDown. Devant même un mec comme Riddle, ouais, bro, s'en fout. Biggie, pour moi, c'est gros, gros potentiel. On l'a vu, leur leader de vestiaire dans le segment début de show avec Retribution. Bah, ce sera peut-être lui d'ailleurs. Est-ce que ce sera pas lui qui va mener la défense de SmackDown? Ça serait super pour le coup. Ce serait une bonne, super idée de mettre Biggie en leader de vestiaire et qui défend le show devant les envahisseurs. Du coup, ça paraîtrait vraiment le mettre en haut et peut-être du coup avoir un nouveau top face parce que si Braun passe vraiment du côté obscur et le Finn, je le considère comme face, mais il ne sera jamais vraiment. Donc, on va avoir besoin d'un top face et peut-être que c'est l'heure de Biggie. Voilà, donc en tout cas, je l'espère. Voilà pour moi. J'en ai fini avec ce SmackDown. J'espère que vous avez apprécié cette review. En tout cas, donnez votre avis et qui sont positifs ou négatifs, ça sert toujours pour s'améliorer aussi. Donc, vous pouvez nous retrouver sur pas mal de plateformes, en fait. On peut se retrouver notamment sur toutes les plateformes de podcast, donc Apple Podcast, PodCloud, aussi Spotify, Deezer et Google Podcast. Vous pouvez nous retrouver aussi sur des plateformes plus vidéo comme YouTube, où vous pouvez nous mettre des pouces, vous abonner avec la cloche. Et nous laisser des commentaires, ça fait toujours plaisir d'avoir des commentaires. Alors, on n'y répond pas toujours, mais vous inquiétez pas, on les lit toujours, ça c'est sûr. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Facebook, sur Twitter et sur Instagram à CatchUpCDC. Et puis bien sûr, nous rejoindre dans notre Discord, dont l'adresse est bien sûr en commentaire de cette vidéo. Voilà, et donc dans Discord, vous pourrez faire comme Gilou, poser des questions et auxquelles on essaiera toujours de répondre autant que possible. Voilà pour moi, c'est fini pour cette review. Donc je vous souhaite à tous une bonne écoute et des bons shows. On se retrouve pour les prochains shows de la semaine prochaine où on aura en plus un SummerSlam à commenter. Donc, portez-vous bien et à bientôt tout le monde. Salut!